Alors, le sujet de ce soir, je l'ai intitulé « L'universalisme évangélique ». Alors, qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est justement ce qu'on va voir ce soir. Le mot, en tout cas, « universalisme », renvoie à la doctrine qui dit, qui affirme qu'un jour, on le redéfinira encore un petit peu plus tard, peut-être de façon plus précise, mais qu'un jour, finalement, tous les êtres humains que Dieu a créés jouiront du bonheur éternel. Et j'ai longtemps pensé que l'universalisme chrétien, ma grand-mère par exemple, du côté catholique, elle croyait à cela. Elle nous disait souvent, en raison de l'amour de Dieu, c'est sa grâce qui triomphera de toute façon. Et elle avait du mal avec les questions de l'enfer dans la Bible et de la doctrine des peines éternelles que nous verrons la semaine prochaine. J'ai longtemps pensé que l'universalisme chrétien, c'était une doctrine finalement de la théologie libérale, de ceux qui vont construire une théologie sans vraiment prendre en compte et sérieusement les données bibliques, sans croire non plus... D'ailleurs, pour la plupart des théologiens libéraux, que la Bible est inspirée de Dieu et que Dieu nous communique des choses qu'il a l'intention de nous communiquer avec vérité. Et j'ai découvert assez récemment seulement une version évangélique de l'universalisme, c'est en écoutant notamment 4 conférences d'un homme qui s'appelle Robin Parry sur YouTube, qui est théologien évangélique au Royaume-Uni. Il a écrit plusieurs ouvrages sur la question de l'universalisme, dont aucun d'ailleurs n'est encore traduit en français, mais il en a écrit au moins 3 ou 4. Et le sujet était peut-être tellement sensible, qu'il avait même écrit ses premiers livres sous un pseudonyme, car il ne voulait pas se révéler au grand public. Voilà, suite à cette découverte que j'ai faite, j'ai souhaité aussi vous partager un certain nombre d'éléments, parce que j'ai pris conscience que la doctrine du salut universel et l'aspect évangélique, c'est-à-dire considérer que la Bible est la parole de Dieu, que Jésus est le seul sauveur, n'étaient pas deux doctrines qui s'excluaient mutuellement. Alors bien sûr, certaines versions de l'universalisme, on ne s'y retrouverait pas du tout en tant qu'évangélique. Par exemple, il y a des universalistes qui disent finalement toutes les religions vont mener à Dieu, sont des moyens de salut pour mener à Dieu. Ce n'est pas du tout cela qu'on va voir justement en parlant de l'universalisme dans une version évangélique. Il existe une version évangélique de l'universalisme qui respecte les Écritures comme parole inspirée de Dieu. Et je vais vous lire simplement, alors ça va mettre quelques minutes quand même, mais je trouve que ça vaut le coup, un témoignage que j'ai trouvé sur Internet, sur un blog d'une dame dont je ne connais rien à part le pseudonyme qu'elle avait utilisé pour écrire sur ce blog, qui écrit justement... quelle est sa position, et vous allez voir qu'elle est évangélique dans ce qu'elle dit, vous allez pouvoir le constater, et pourtant elle croit à un salut de tous les êtres humains. Alors, bien sûr, il y a des choses dans ce que je vais dire, je ne suis pas du tout d'accord, notamment le début, vous allez voir, et puis d'autres endroits aussi, avec une lecture très très littéraliste des premiers chapitres de la Genèse notamment. Alors, bonjour à tous. J'écris ce message afin de dénoncer la théologie diabolique, de l'Église traditionnaliste sur l'enfer. La doctrine des tourments éternels est probablement la pire de toutes les inventions de Satan. Il s'agit d'un mythe païen sans le moindre support biblique. Alors là, c'est la partie avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord, mais lisons la suite. Avant toute chose, permettez-moi de me présenter brièvement. Je m'appelle Colas et j'ai 38 ans. J'habite à La Rochelle. Je suis chrétien et je crois en l'inspiration divine de la Sainte Bible. Plus précisément, je suis un chrétien universaliste et œcuménique. Les chrétiens universalistes sont peu nombreux en France. Cela dit, nous sommes bien représentés aux États-Unis. Quelles sont nos croyances? En un mot, nous sommes persuadés que tous les hommes seront sauvés ultimement. Non pas tous en même temps, mais chacun suivant son rang. Nous pensons que Jésus est vraiment le sauveur du monde. Et là, à l'appui des références bibliques qui disent que Jésus est le sauveur du monde, Jean 4, 42, 1 Jean 4, 14. Nous ne nions pas l'existence de châtiment après la mort, mais nous soutenons que ceux-ci seront temporaires et correctifs. Il existe dans la Sainte Bible plus de 800 versets qui enseignent directement ou indirectement le salut universel. Trois exemples parmi tant d'autres. Paul a dit « Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ ». En Ésaïe 57, 16, le Seigneur dit « Je ne veux pas contester à toujours ni garder une éternelle colère quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites ». Et David a déclaré « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi ». Or, que dit Jésus ? Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je pourrais citer ainsi des centaines de versets similaires. Chers amis, permettez-moi de préciser la doctrine universaliste. Premièrement, nous ne sommes pas unitariens. Nous reconnaissons la divinité de Jésus. Deuxièmement, nous ne croyons pas que quiconque puisse entrer dans la Jérusalem céleste sans la repentance ou sans la foi. Nous pensons au contraire que la repentance et la foi sont impérativement requises pour le salut. Selon nous, la sainteté est une condition indispensable pour accéder au paradis. En quoi différons-nous des autres chrétiens ? Nous soutenons que dans le futur, Dieu donnera la repentance et la foi à tous les hommes, afin que tous soient saints. Nous sommes persuadés que le Seigneur sanctifiera tous les hommes, afin que Dieu soit tout en tous. 1 Corinthiens 15, versets 20 à 29. Par ailleurs, contrairement à une idée reçue, nous ne pensons pas que toutes les religions sont équivalentes. Nous sommes au contraire persuadés que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nous ne nions pas davantage le jugement à venir. Nous annonçons au contraire l'existence de corrections très sévères après la mort. Cela dit, nous pensons que la miséricorde divine prévaudra en définitive, selon qu'il est écrit « Le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. » Lamentation 3, 31-33. Chers amis, je pense que vous croyez au libre arbitre de l'homme. J'y crois moi aussi d'une certaine façon. Mais le libre arbitre de l'homme n'est pas absolu, car Dieu a tout prédestiné. Le libre arbitre donné aux hommes n'est que le moyen que le Seigneur a choisi afin d'accomplir ses desseins. Croyez-vous que Dieu ait prédestiné certaines personnes à l'enfer ? Ça n'est certainement pas ce que nous dit la Bible. Dieu a au contraire prédestiné toutes ses créatures au salut, sans la moindre exception. Colossiens 1, 16. Par conséquent, toutes seront sauvées ultimement. Les choses sont en fait très simples. D'une part, l'Éternel veut que tous les hommes soient sauvés, 1 Timothée 2, 4. D'autre part, tout ce que l'Éternel... Pardon ? Oui, oui. Tous les hommes, anthropos, dans le grec, pas aner. Il y a deux mots en grec. D'autre part, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Psaume 135, verset 6. Dieu veut le salut de tous les hommes et il accomplira toute sa volonté. Par conséquent, Dieu sauvera tous les hommes en définitive, sans la moindre exception. Il s'agit d'une logique enfantine. Le Seigneur accomplira toute sa volonté, selon qu'il est écrit « Mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté ». Que certains hommes puissent résister pendant un temps à la volonté de Dieu, je le crois tout à fait. Mais que certains hommes puissent résister irrémédiablement à la volonté de Dieu, je ne le crois pas. Dieu n'est-il pas absolument souverain en définitive ? Je vais m'arrêter là parce que j'ai dit l'essentiel, après ça continue et c'est là que ça entre dans des choses un petit peu bizarres au niveau d'une lecture ultra littérale de la Genèse avec les animaux qui redeviendront végétariens, etc. Mais là je pense avoir dit à peu près l'essentiel. À un moment donné, l'autre argument, est plus faible. En tout cas, voilà, on a eu la présentation de ce monsieur, du coup, je pensais que c'était une dame, mais non, en fait, ce monsieur de 38 ans qui habite à La Rochelle. Et vous voyez un petit peu qu'on est peut-être loin du cliché qu'on pouvait se faire de la doctrine d'un salut universel quand on lit ça. Hein, parce que finalement, on se retrouve sur plein de points, et sur d'autres points, on ne se retrouve pas non plus. Hein. Mais quand même, on ne peut pas dire qu'ils ne prennent pas la Bible au sérieux. Et beaucoup de doctrines évoquées dans ce petit texte, on est pleinement en accord avec elle. Oui. Oui, alors tout a été créé par lui et pour lui. Je pense que tout a été créé pour Jésus-Christ aussi, donc y compris les damnés, qui du coup ne pourraient pas être damnés éternellement. Disons, c'est pas précisé, mais j'ai cru comprendre que peut-être ce verset a l'appui, hein, si tout a été créé pour Jésus, c'est pas pour qu'une majorité se perde. C'est peut-être ça que l'argumentaire qu'il y a derrière, mais je suis d'accord que c'est pas du tout clair. Oui, ben, alors non, la logique enfantine, c'était Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et Dieu fait ce qu'il veut. Donc voilà. Mais là, il y a un autre problème. Effectivement, on pourrait contester beaucoup de points, notamment déjà qu'il y ait 800 versets qui enseignent directement ou indirectement le salut universel. Ça, c'est complètement faux. Hein, il y en a beaucoup moins. Et puis, du coup, ben, j'en profite pour dire que voilà, c'est pas si simple quand on dit Dieu veut quelque chose. Et c'est d'ailleurs tellement pas simple qu'on a même distingué plusieurs sortes de volonté en Dieu. Hein, voilà. Donc, il y a quelques simplifications, mais je trouvais quand même intéressant. Et puis, alors, de dire que c'est une théologie diabolique, c'est sûr que c'est pas vrai. parce que le diable n'aurait pas inventé une théologie qui le condamne éternellement. Ça m'étonnerait beaucoup. Voilà. Alors, je pense néanmoins que de plus en plus d'évangéliques dans le monde vont adopter ce point de vue, car il représente une tentation assez forte, car la doctrine des peines éternelles, qu'on développera plutôt la semaine prochaine, représente une vraie difficulté. Et peut-être que c'est cette difficulté-là aussi, à plusieurs niveaux, intellectuels, moraux, au niveau de notre théologie de l'amour de Dieu. Hein. Et justement, on va voir un peu tout ça aussi déjà ce soir. Je connais au moins un pasteur de l'association baptiste qui est universaliste. En ce qui me concerne, je n'adhère pas à cette doctrine, même si, comme Dieu, j'aimerais que tous les hommes soient sauvés. Du moins presque tous.
Là, on peut dire amen.
Ouais, voilà, c'est ça. Du moins presque tous, parce que des fois, quand même, les très grands méchants hein, qu'on montre comme des exemples, des types de méchants, comme par exemple, bien sûr, Hitler. Je ne sais même pas si j'ai forcément envie qu'il soit sauvé. Mais voilà. En tout cas, oui. Dieu le veut, veut que tous les hommes soient sauvés. Je pense que la doctrine des peines éternelles rend mieux compte aussi de toutes les données bibliques que l'universalisme, de la même manière que d'autres systèmes théologiques. Par exemple, je crois, moi personnellement, que le calvinisme est aussi plus proche des données bibliques que l'arminianisme, par exemple, ou encore, que si on veut parler d'autres questions qui sont liées à la fin des temps, que l'amillénarisme est une doctrine qui...
L'arminianisme, qu'est-ce que c'est ?
Ah, l'arminianisme. Alors, c'est l'idée qu'il n'y a pas d'élection. Dieu ne choisit pas, il n'y a pas d'élection. C'est le libre arbitre de l'homme hein, qui trouve Dieu et se tourne vers lui et donc est sauvé. Et dans l'arminianisme notamment, par exemple, bah, du coup, on peut aussi se détourner de Dieu, puis éventuellement y revenir et se détourner de nouveau, etc. Il y a moins de confiance au niveau du salut, quoi. Peut-on perdre son salut ? Par exemple, les calvinistes ne répondront pas de la même façon que l'arminianisme. Voilà. Et alors, pour la fin des temps, par exemple, ben, l'amillénarisme, ça c'est autre chose, mais dire qu'il n'y a pas de millénium, ou qu'il ne faut pas comprendre le millénium comme une période littérale de 1000 ans, hein, je pense que ça explique beaucoup mieux ce qu'on a dans la Bible, et y compris ce qu'on a dans le livre de l'Apocalypse, que le pré-millénarisme ou le post-millénarisme, qui sont deux autres positions sur la chronologie de la fin des temps. Donc, la théologie, c'est quoi ? La théologie, c'est... on essaye de réunir l'ensemble, si c'est possible, des données bibliques, et puis de construire avec ça un modèle, une façon de penser qui nous paraît la plus cohérente possible. Hein. C'est ça, en fait, l'exercice un petit peu de la théologie systématique, hein, la doctrine. on essaye de faire coller à un livre, la Bible, qui contient d'ailleurs plusieurs livres, avec des styles littéraires différents, avec des contextes différents, des époques différentes, des lieux différents, etc., de retirer de tout ça quelque chose qui va nous parler à nous, aujourd'hui, qui forme un tout un peu cohérent. Et donc, en fait, l'entreprise de la théologie systématique est de toute façon, à un moment donné, vouée à une sorte d'échec. Par exemple, on ne peut pas faire rentrer Dieu. On ne peut pas faire rentrer Dieu dans notre... mettre Dieu dans un moule, dans notre rationalité cérébrale. Il y a des choses spirituelles, voilà, qui nous échappent. Et par contre... quand on est évangélique et qu'on se base sur la Bible, on veut que ça colle au plus près, hein, de la Bible, prendre tout en compte. Ça ne veut pas dire que ce sera parfaitement juste, etc., hein, mais on essaie de coller au plus près. On a un petit peu cette même idée dans la science en général, hein, par exemple la physique, qui s'intéresse à toutes sortes de lois physiques, naturelles, que ce soit sur la Terre ou dans l'univers, etc. On essaye de construire des modèles qui vont coller à cette réalité, puis c'est jamais parfait, puis il y a toujours des chercheurs qui trouvent d'autres idées, etc. Mais revenons donc à la question de l'universalisme. D'abord, je vous propose sous un angle historique. La croyance, en fait, dans le salut universel est aussi ancienne, ou quasiment, que le christianisme lui-même. On rencontre cette croyance aussi, bien sûr, en dehors du christianisme, hein, dans d'autres milieux. Mais les pères de l'Église, hein, quand ils ont commencé à ressentir le besoin d'écrire aussi des résumés de la doctrine, etc., dans les premiers siècles, il y en a beaucoup qui ont confessé un salut universel. Plus particulièrement, d'ailleurs, on peut observer chez les érudits qui avaient le grec biblique comme langue maternelle, peut-être influencé par une philosophie grecque aussi, qui faisait correspondre la fin au début. Hein, et comme au début, ben, on a, quelque part en Adam, toute l'humanité, à la fin, il faut que toute l'humanité aussi reviennent à cet état initial. C'est ce qu'on a appelé l'apocatastase. Et le plus connu à confesser ça était Origène. Mais il y avait aussi Clément d'Alexandrie et un peu plus tard aussi Grégoire de Nice, des grands noms qui font référence au niveau théologique sur plein de points encore aujourd'hui, même chez nous en tant qu'évangéliques. Hein, et de toute façon, ces confessions de foi des premiers siècles, hein, ont été rédigées par des personnes comme cela. C'est sans doute les enseignements d'Origène qui ont été les plus influents. Origène, lui, estimait que même le diable sera en définitive sauvé. Et c'est justement la conclusion assez logique si on comprend que qu'il y a ce cycle au niveau du temps. Donc toute créature revient à son état initial, parce qu'il n'y avait pas une conception du temps qui était linéaire comme on peut l'avoir aujourd'hui. Et il avance comme texte que justement il y a une réconciliation annoncée par l'apôtre Paul de tous les êtres célestes, même ceux qui sont sous la terre, etc., en citant par exemple Colossiens 1 ou Philippiens 2, etc. On pourra lire justement quelques passages tout à l'heure. L'évêque Titus, évêque de Bostra, vers 364 après Jésus-Christ, dans un livre intitulé « Contre les Manichéens », écrit « Les punitions de Dieu sont saintes, tout comme elles sont un remède et salutaires dans leur effet chez les transgresseurs, car elles sont infligées non pas pour les préserver dans leur méchanceté, mais pour les faire se détourner de leurs péchés. L'abysse est vraiment un lieu de punition, mais il n'est pas sans fin. L'angoisse de leur souffrance les pousse à se dégager de leurs péchés. » Théodore de Mopsueste était un théologien très influent à son époque. Il est mort en 428 après Jésus-Christ. Il a posé la question suivante, dans un des ouvrages, s'appelle Fragment 4. Je pense que du coup, il y a Fragment 1, 2, 3, et puis il y a le 4. Qui serait assez fou pour croire que Dieu ressusciterait les hommes simplement pour les détruire pour toujours dans les tourments? Et donc, c'est ainsi que dans les premiers siècles, il y avait de nombreux partisans du salut universel dans les églises. Et l'opposition, par contre, à cette doctrine était aussi forte. Augustin, par exemple, n'était pas d'accord avec les universalistes, qu'il trouvait au cœur tendre, mais il les considérait quand même comme des orthodoxes, parce que cette position se base sur des passages difficiles et qui peuvent donner lieu à plusieurs interprétations possibles. Et il écrit ceci, il écrit « En fait, il y en a vraiment beaucoup » qui ne croient pas à de telles choses comme le tourment éternel, sans qu'ils aillent contre l'écriture divine. Augustin. Et finalement, c'est la vision d'Augustin, celle donc des peines éternelles, qu'on détaillera plutôt la semaine prochaine, donc qui a prévalu dans l'Église de Rome, et c'est l'Église qui s'appelait l'Église universelle, catholique, hein, c'est ça que ça veut dire au départ, hein. L'Église universelle, qui a finalement déclaré que l'universalisme était hérétique au 5e concile œcuménique en 553. Donc la doctrine universaliste est déclarée par l'Église comme hérétique à ce moment-là, au 6e siècle. L'universaliste a ensuite refait surface des siècles après, surtout au 19e siècle, et ça reste un sujet vivant encore aujourd'hui, je pense même qui s'accélère, comme je le disais, avec un certain nombre de personnes, notamment dans le monde anglo-saxon, mais il ne fait aucun doute que quand certains ouvrages seront traduits, beaucoup peut-être se poseront des questions. Le sadhu Sundar Singh a enseigné l'universalisme à plusieurs reprises dans ses prédications. On aime bien le citer en tant qu'évangélique, on a même des cantiques de lui dans le Gem 1. Donc à titre d'exemple, voilà, il fait aussi allusion à Colossiens 1, versets 19 et 20, et il écrit, donc c'est une traduction de l'anglais, « La doctrine de l'enfer envoie des contradictions massives contre ce que la parole de Dieu dit au sujet de la souveraineté de Dieu, ses attributs, son amour, son pardon, sa justice, sa grâce » et l'œuvre accomplie par Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour les péchés du monde. Par exemple, la Bible dit dans Colossiens 1, 19 et 20 que Dieu réconciliera toutes choses sur la terre et dans les cieux avec lui-même en faisant la paix par le sang de son Fils versé sur la croix. Comment l'enfer pourrait être considéré comme faisant partie de la réconciliation de toutes choses et un moyen d'établir la paix entre Dieu et les personnes qu'il a créées ? Heureusement, le vrai Dieu de la Bible est un Dieu qui s'assurera qu'en fin de compte, tous les gens soient réconciliés avec lui à cause du sacrifice plein d'amour de son Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour les péchés du monde entier. 1 Jean 2, verset 2. Jésus-Christ mort pour les péchés du monde entier. Et plus récemment, le très connu théologien évangélique John Stott a écrit dans un livre qu'il appelle « Essentials » Je trouve le concept de l'enfer intolérable et je ne comprends pas comment les gens peuvent vivre sans cautériser leurs sentiments ou craquer sous la pression. Et vous savez d'ailleurs que, interviewé, il n'a jamais vraiment enseigné, John Stott, bon, il a quand même écrit là dans un ouvrage, mais un petit peu poussé dans ses derniers retranchements par un journaliste dans un interview. John Stott a confessé croire qu'à un moment donné, les personnes condamnées cesseront d'exister. C'est une position aussi qui existe, qui n'est pas l'universalisme, qui n'est pas la doctrine des peines éternelles, qui est encore une position intermédiaire. Les condamnés seront condamnés un temps, après quoi ils disparaîtront, ils se désintégreront, Dieu les désintégrera, ça s'appelle l'annihilationnisme.
Ça, c'est les témoins de Jéhovah, je pense,
qui disent ça. Probablement, il y a aussi l'idée, les adventistes aussi, les adventistes croient ça. Et puis, alors ça vient aussi de questions très complexes qui sont liées à l'âme. Hein, alors on a souvent on entend, on a un corps, si vous voulez, l'être corporel, et puis l'homme intérieur, l'être intérieur. Et cet être intérieur, il est immatériel, il est de nature spirituelle. On pourrait dire que c'est l'âme de l'homme. Est-ce que cette âme est immortelle? C'est la grande question. Il y a très peu, il y a quelques appuis bibliques, mais il y en a assez peu finalement pour dire que cette âme est immortelle. Et donc, si elle n'est pas immortelle à un moment donné, elle peut disparaître, puisque c'est même comme ça que Dieu a voulu les choses. Hein. Par contre, pour certains, Dieu donne la vie éternelle. Hein. Jean 3,16, par contre, par exemple, dit pour que celui qui croit, pour qu'il ne périsse pas, ce serait l'annihilation, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la vie éternelle est un don, vraiment, que Dieu fait à certains, mais pas à tous. Donc voilà, c'est pour dire que derrière ça, il y a des questions très très complexes liées à l'âme et à la continuation de l'existence de l'âme après la mort et tout ça.
Donc il pense qu'il y a un châtiment pour les rebelles.
Oui.
Ce que nous considérons que Christ a porté le châtiment sur lui, c'est eux qui devront le supporter quelque temps.
C'est ça. Et au bout d'un certain temps, ça s'arrête, cessation de toute forme d'existence. C'est curieux aussi, hein, que on pourrait dire plein de choses. On a un livre à la bibliothèque qui justement soutient ça et qui parle, à l'appui des références bibliques, etc. Il y a une vingtaine de pages, etc. C'est pas vraiment sur cette solution-là. Alors, pourquoi cette solution-là? C'est parce que on se pose la question, que deviennent toutes ces personnes qui meurent sans avoir confessé personnellement la foi en Jésus? Hein, quel est le sort de ces personnes? Et tous les jours, Dieu crée des centaines de milliers de personnes. Et certains, parce que ça existe encore, il y a des régions du monde où on peut vivre toute sa vie sans entendre parler de l'Évangile. Hein, malgré les efforts missionnaires qu'on fait, il y a des zones de la Terre où il n'y a pas de mission installée. Il y a ce qu'on appelle les peuples non atteints. Des fois, on dit la fenêtre 10-40 entre le 10e parallèle. Disons, je ne sais pas exactement, mais il y a une petite... des régions d'Asie, d'autres peut-être dans certains pays d'Afrique, ça me paraît moins, mais plutôt certains pays, oui, d'Asie, etc. Et c'est quand même des millions et des millions de personnes qui habitent ces régions-là.
Il y a beaucoup au Tchad, par exemple, qui n'ont pas entendu
parler. Merci de le dire. Oui, donc même en Afrique, alors qu'on a l'impression que le christianisme est vivant en Afrique, mais peut-être pas dans tous les pays. Ça pose question, et c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs réponses, dont la solution universaliste, la solution de l'annihilationnisme, on l'appelle des fois la solution conditionnaliste. Ça renvoie au fait que la vie éternelle est donnée à condition, sous condition, elle n'est pas d'office. Tout le monde n'a pas l'existence éternelle. Et la solution traditionnelle, celle donc des peines éternelles, et même dans la solution traditionnelle, il y a plusieurs options aussi encore possibles. Mais ce que je vous propose ce soir, c'est de regarder donc à la solution universaliste dans sa version évangélique et les arguments. Alors, tout d'abord, une définition de l'universalisme. J'en ai déjà donné une plus courte après, là j'en ai une un peu plus complète. L'universalisme est la doctrine qui affirme que Dieu a créé tous les êtres humains en vue d'une félicité éternelle et que cette dernière sera effective pour tous. Au final, personne ne sera condamné à un châtiment éternel en raison de l'immensité, de la grâce et de l'amour de Dieu. Et très souvent, il y a des versets du style « Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé ». Donc si elle surabonde, c'est que la grâce surpasse hein, quelque part le péché, qui est grave, mais la grâce est encore plus grande, donc ça rend possible ce genre de versets qu'on peut-être mal interprété, rend possible ce type de doctrine. Donc ça apparaît très tôt, effectivement, dans l'histoire du christianisme, comme on l'a vu. Au cours de l'histoire, nombreux sont ceux qui ont pu qualifier aussi la position traditionnelle de monstrueuse en raison du châtiment éternel. Et bien souvent, les théologiens universalistes ont prétendu avoir la vraie conception de la sagesse, de la justice et de l'amour de Dieu. Et voilà quelques arguments. Donc depuis l'époque de Jésus, on estime à 30 milliards le nombre de personnes qui ne se réclament pas du christianisme. Et d'après donc, la position traditionnelle, ils seraient presque tous voués à un châtiment éternel. Alors les universalistes interrogent, ils disent « Avec un tel état de fait, peut-on encore dire qu'on est sous l'ère de la grâce ?» La raison de beaucoup se refuse à admettre que Dieu crée des êtres humains pour qu'ils soient finalement, éternellement condamnés. Qui ferait ça ? Créer quelque chose pour le perdre ?
C'est la sagesse purement humaine.
Oui, alors, mais en fait, c'est ça. C'est leur argument de la sagesse. Dieu est sage, donc créer pour mettre ensuite une grande partie de côté n'est pas sage. Donc, en raison de la sagesse de Dieu, Dieu ne fera pas ça. Voilà. C'est un petit peu voilà, la déclinaison de cet argument. Alors, on pourrait dire que oui, effectivement, on applique peut-être des schémas hein, de la sagesse des hommes qui n'est pas d'ailleurs la sagesse de Dieu. Même la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Mais voilà, en tout cas, ils ont un argument au niveau de la sagesse de Dieu. Que les personnes, ils font remarquer aussi que les personnes de bon sens infligent des châtiments dans le but de punir, certainement. Ça, c'est ce qu'on va appeler la notion de la rétribution, la justice rétributive. Mais on inflige aussi une punition dans le but de corriger, une justice restauratrice. Parce qu'on veut que celui qui a commis une faute prenne conscience de sa faute. Hein, la punition est faite pour ça, mais dans un but pédagogique, pour qu'ensuite la personne se dise « je ne recommence plus » ou « j'avoue que j'avais tort et j'ai été mauvais sur ce point ». Et donc, selon les universalistes, la justice de Dieu est une justice restauratrice, c'est-à-dire qu'il y a un but, il y a un temps pour la punition, mais cette punition est pédagogique, ou des fois on trouve comme vocabulaire la justice finale, ou la justice, c'est pas vraiment pédagogique, mais instrumentale, voilà, la justice instrumentale. Alors la justice finale, ça veut dire que la punition, la peine, est une fin en soi, la justice finale, ou la justice instrumentale, c'est-à-dire la justice, Dieu utilise sa justice pour, dans le but de quelque chose d'autre. C'est un instrument pour en amener au salut, à la repentance, à la reconnaissance de ses fautes, etc. Et donc, ça c'est un des arguments les plus forts hein, qu'ils ont, c'est de dire que la doctrine des peines éternelles montre que la justice de Dieu n'est que rétributive, puisqu'il n'y a rien en vue, il n'y a pas de changement en vue possible, il n'y a plus de repentance, plus de retour en arrière possible. Donc la justice de Dieu, c'est simplement une peine en soi. La punition aussi semble disproportionnée, car elle est éternelle, alors que toute faute est commise dans le temps par un être limité. Le jugement ne semble pas juste, car la condamnation aussi est éternelle pour tous. Et il faut remarquer que dans la justice humaine, même pour des crimes graves, tout le monde n'est pas puni à perpétuité. Dieu n'aurait-il pas la finesse de tenir compte, lui aussi, des circonstances atténuantes ? Et Et un autre argument aussi, avant de voir les textes bibliques, là c'est des arguments, on va dire, nature théologique, comment Dieu pourrait se complaire que ses créatures souffrent loin de lui? De même, question qu'on peut se poser, qu'on s'est sans doute déjà une fois posée, comment ceux qui sont sauvés, les rachetés, pourront-ils vraiment profiter du bonheur que Dieu leur offre en sachant que d'autres souffrent éternellement? Parce qu'aujourd'hui, oui, on peut être dans la joie, on peut être dans le bonheur, mais voilà, quand on est témoin de certaines souffrances, il y a la compassion qui, quelque part, limite un petit peu tout ça, quoi. C'est, voilà. Alors, derrière tous ces arguments, il y a finalement en filigrane celui de l'amour de Dieu. Jésus est mort en pardonnant même à ses bourreaux. Et il nous demande de pardonner à nous, y compris à nos ennemis. Alors Dieu ne le ferait-il pas lui aussi au nom de l'amour? En fait, là où la position traditionnelle rejoint la position universaliste, c'est au sujet de la destinée éternelle. Il y a une destinée éternelle, il y a pour chaque personne une existence éternelle après la mort, dans les deux cas. Et on est aussi d'accord avec les universalistes sur le fait que le bien triomphera sur le mal. Mais dire ça pour les universalistes, ça ne peut vouloir dire que le rétablissement universel, et cette promesse d'un salut universel. Et pour la position traditionnelle, le fait que le bien triomphe sur le mal n'exclut pas une condamnation éternelle. Mais ce qui peut-être va nous intéresser le plus maintenant, c'est quels sont les appuis bibliques, puisque je disais, ils prennent au sérieux la Bible. Quels sont les appuis bibliques de la version évangélique de l'universalisme? Alors, je ne dis pas que c'est tous les universalistes qui disent ça, mais certains croient que tous les hommes entendront l'Évangile. On a parlé tout à l'heure des peuples non atteints qui n'ont pas eu l'occasion d'entendre l'Évangile, qui disent non, pour se positionner spirituellement, il faut entendre l'Évangile et le recevoir ou le rejeter. Donc certains disent que tous les hommes entendront l'Évangile, même si ça doit être après la mort. Et 1 Pierre 3, par exemple, c'est un passage très compliqué. On ne va pas passer toute la soirée là-dessus, mais on pourrait passer toute une soirée là-dessus. Je vous lis juste ce verset d'1 Pierre 3. Vous voyez peut-être lequel c'est. C'est Jésus qui est allé prêcher aux esprits qui sont en prison, mais je vais le relire plus précisément. 1 Pierre 3, verset 19 et le début du 20. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, en parlant de Jésus, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche. Et si on lit encore un chapitre après, 1 Pierre 4, verset 6, « En effet, l'Évangile aussi a aussi été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés, comme tous les hommes ici-bas, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. » Vous voyez un peu cette idée. Alors bien sûr, on peut interpréter ces passages complètement autrement qu'une prédication de l'Évangile à ceux qui sont morts. Déjà, alors certains font remarquer que c'est peut-être les morts, l'Évangile qui a été prêché aux morts quand ils étaient en vie. Maintenant, ils sont morts, donc on peut dire les morts, mais c'est, l'Évangile leur a été prêché quand ils étaient encore en vie. Pourquoi pas, peut-être par Noé, son exemple, etc. Ou bien une annonce de l'Évangile aux contemporains de Noé après leur mort. Bon. Ou encore, ce ne serait pas une occasion d'accepter l'Évangile, mais ce serait Jésus qui, dans le monde spirituel, affirme sa victoire. Et du coup, les esprits en prison seraient le monde spirituel. Les démons, en fait, le monde spirituel mauvais. On a Éphésiens 4, verset 9, qui nous parle aussi d'une descente de Jésus dans les régions inférieures de la terre. Alors, selon l'interprétation qu'on a pour 1 Pierre 3, hop, ce verset il peut venir en appui. Vous voyez bien, c'est aussi écrit dans Éphésiens. Ce n'est pas que Pierre, il y a aussi Paul qui le dit. Puisque Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre. Sauf qu'on peut aussi interpréter autrement. Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre, ça veut dire tout simplement qu'il est descendu sur terre. Et la terre, c'est une région inférieure par rapport au ciel. Oui.
Par contre, l'idée qu'un jour, que tous les hommes entendront parler de Dieu, ça c'est quand même biblique, parce que, enfin, pas dans la version, pour moi,
oui.
Pour moi, pas dans la version de que même les morts entendront parler, mais dans Matthieu 24, quand Jésus parle de la fin des temps,
oui.
Justement, il dit à un moment donné, je vous permets de lire le verset,
oui, bien sûr.
Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage, du coup la fin, c'est pas la fin, la cause, c'est pas la même, pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Mmh. Il y a quand même cette idée que Jésus reviendra une fois que toutes les nations auront entendu parler de lui.
Oui.
Donc toutes les nations entendront parler de Jésus, a priori. Mais ça ne veut pas dire qu'ils seront forcément sauvés d'après ce texte.
Ouais, ouais, ok.
Ça implique pas ça, quoi.
Mmh. Ok.
Mais quand même, moi je me dis, mais alors Jésus, il est mort et tout ça pour ça, pour qu'après tout le monde,
ouais,
tout voilà. Monde se réconcilie. C'est quand même un grand sacrifice. Et puis alors, ça sert à quoi si après tout, à la fin, tout est comme si tout aurait été quand même.
Oui. Non, alors effectivement, alors ce que les.
Ok.
Non, alors ce que les universalistes disent, non, Jésus, le sacrifice de Jésus est nécessaire, puisque c'est lui qui apporte le salut, mais à tous, au lieu de l'apporter à certains seulement, que Dieu a choisi.
Même ceux qui l'ont rejeté toute leur vie, et qui étaient très pauvres comme ça, qui l'ont jamais reconnu comme Dieu.
Ben ouais, c'est pour ça qu'il y a l'idée de la, comme une, presque une deuxième chance, hein, en quelque sorte.
Le purgatoire.
Alors le purgatoire, ouais, ça ressemble un petit peu, ça ressemble à cette idée-là, sauf que le purgatoire dans la théologie catholique, c'est pour les catholiques. Hein. C'est-à-dire qu'un non-catholique n'ira pas au purgatoire. C'est les catholiques, mais qui, comme ils ont une conception de mériter le salut, et que quelque part la souffrance est méritoire, je fais schématiquement, hein. C'est un peu plus subtil que ça en vrai, mais du coup, ceux qui, en gros, certains, ne seront pas directement sauvés, auront encore quelque chose à mériter dans ce temps du purgatoire. Mais c'est pour les catholiques, pour les baptisés, hein, le purgatoire. C'est pas pour tous. Hein. Les catholiques croient à la doctrine des peines éternelles et à l'enfer, dans la théologie magistérielle. Hein, c'est pas tous les catholiques, voilà, mais dans la théologie officielle de l'Église. Certains vont ajouter aussi Matthieu 12, 32 à ce qu'on est en train de dire là. Donc, celui qui parlera contre le Fils de l'homme, celui-là sera pardonné. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera accordé ni dans le monde présent, ni dans le monde à venir. Ça sous-entendrait qu'on pourrait peut-être, dans le monde à venir, être pardonné. Vous voyez, bon, c'est des fois ce genre de versets qui peuvent des fois être ajoutés aussi à ce débat. Y aura-t-il ou non une occasion d'accepter l'évangile après la mort ? Et donc d'être pardonné. Alors d'après Vinet, la liste est quand même longue, Boniface, Doumergue, Jean de Saussure, Oberlin, il faut que tous les hommes soient en présence de Jésus-Christ pour pouvoir décider. Si ça n'est pas sur cette terre, ça sera après. Dieu donnera l'occasion d'entendre l'évangile à tous les êtres humains, et même de le réentendre pour ceux qui sont morts sans répondre à la bonne nouvelle. C'est en quelque sorte une seconde chance. Alors, bon, on pourra voir effectivement, bon, j'y viens dans un instant. Donc il y a ceux qui sont sauvés de leur vivant et les autres seront finalement convaincus après leur mort. Dieu saura s'y prendre pour convaincre les cœurs, et certains vont même jusqu'à penser, c'était un petit peu ce qu'il y avait dans l'idée du témoignage que je vous ai lu là tout à l'heure, que l'enfer, justement, sera là pour convaincre les plus récalcitrants, qui n'auront pas été convaincus par la méthode douce de la présentation de l'évangile. Donc il y aura l'enfer, mais même cet enfer-là sera pour convaincre, finalement, et conduire à la conversion. Et même si cet enfer doit durer des siècles de juste châtiment. Et là, certains textes qui sont avancés, des textes d'évangile de Matthieu où il est question de la dette, on le mettra en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Ça suppose qu'à un moment donné, on en sort aussi. Ce n'est pas perpétuité, ce n'est pas éternel, la punition. Donc, les universalistes n'écartent pas la notion, en tout cas pas tous les universalistes, ils n'écartent pas la notion de justice rétributive, ni l'existence de l'enfer, mais c'est juste pour un temps donné. Ils contestent donc l'éternité, le caractère éternel de la punition. Et ils font remarquer que les portes de la nouvelle Jérusalem restent ouvertes dans l'Apocalypse. C'est assez surprenant aussi ce texte.
Quand ils parlent de l'enfer, donc l'enfer est une période intermédiaire, après il y a une chance, c'est ça?
C'est ça, en fait, l'enfer, quelque part, convaincra tout le monde, et même les plus récalcitrants finiront par se convertir.
Et du coup, ça sert à quoi d'annoncer l'évangile aujourd'hui?
C'est ça, tout ça. Alors, à quoi ça sert d'annoncer l'évangile? Ça, c'est une question qu'il faut aussi poser aux calvinistes. parce que si Dieu en choisit certains... Mais ce que je veux dire, c'est que cette question-là, on peut la poser aussi à des personnes qui sont dans une position théologique tout à fait traditionnelle.
Les calvinistes, ils disent que c'est parce que on ne sait pas personnellement qui sera sauvé, donc notre responsabilité personnelle, c'est d'annoncer l'évangile.
Ouais, ouais, ouais.
La responsabilité de qui sera sauvé ou pas, elle revient à Dieu.
Ouais, ouais. Non, alors, ce serait annoncer l'évangile pour que justement personne n'ait à subir cet enfer, même s'il n'est pas éternel, parce qu'il est quand même horrible. On veut quand même être faire partie de ceux qui échappent à la condamnation, et ce serait peut-être ça leur réponse, mais j'en sais rien, il faudrait leur poser la question en fait. Ouais. En tout cas, nous, ce qu'on va souvent répondre avec la position traditionnelle, c'est Hébreux 9, 27, il est donné à l'homme de mourir une seule fois, donc c'est aussi contre la réincarnation et tout ça, après quoi vient le jugement. Ça ne laisse apparemment aucune, ce verset-là, ne laisse apparemment aucune perspective d'une repentance après la mort. Hein. Il y a la mort et aussitôt après le jugement qui est mentionné. Les textes difficiles évoqués dans 1 Pierre ou Éphésiens, auxquels on peut encore rajouter sans doute d'autres versets, sont interprétés différemment dans la position traditionnelle pour ne laisser aucune possibilité de repentance post-mortem. Mais ce n'est pas uniquement sur ces textes dont l'exégèse est complexe que vont s'appuyer les universalistes. Ils vont avancer tout un corpus de textes, à peu près une vingtaine de textes, qui va leur servir de base. Dans l'Ancien Testament, peu de textes, mais surtout donc dans le Nouveau Testament. Et c'est là que justement on va les citer. D'abord dans l'Ancien Testament, les appuis universalistes sont, j'avoue, là assez peu nombreux et peu convaincants. Je vais mentionner juste quelques versets, par exemple psaume 65, verset 2. 3, ouais. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Psaume 145, versets 9 et 10. L'Éternel est bon envers tous, sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, ils proclameront ta puissance. Et Ésaïe 57, verset 16, que je vous ai lu déjà tout à l'heure, qui dit « Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. » C'est à peu près tout, les textes sur lesquels s'appuient les universalistes dans l'Ancien Testament. Certains parlent du jubilé, mais c'est un petit peu vraiment, disons, très fragile, le jubilé qui serait comme le type de la restauration finale. Oui.
Je pense à au récit ou à la parabole du mauvais riche et de Lazare.
Exact.
Où Jésus dit, il n'y a pas moyen d'aller d'un côté à l'autre.
Exact.
Et s'ils n'ont pas cru de leur vivant, même si quelqu'un des morts revient, ouais. Ça me semble assez...
Oui, c'est très très fort ce passage-là, donc on le verra surtout la semaine prochaine, parce que ça fait partie, disons, la doctrine des peines éternelles répond en fait, va répondre en fait un petit peu à certaines choses. Et ce qu'on voit, et je le répéterai du coup la semaine prochaine, mais ce qu'on voit dans cette parabole-là, c'est effectivement que celui qui est donc dans les flammes, et il y a ce fossé qui sépare des justes, hein, du sein d'Abraham, et eh bien ne demande même pas à aller de l'autre côté. C'est assez curieux parce que assez naturellement, c'est ça qu'il aurait dû demander. Est-ce que je peux pas vous rejoindre plutôt que mets-moi de l'eau sur ma langue parce que j'ai chaud et je souffre dans la flamme. Je veux dire, c'est pas logique de dire ça. Il faudrait dire, mais est-ce que je peux pas venir de l'autre côté? Et puis l'autre, il pourrait à la limite répondre, c'est pas possible. Mais on voit même que il y a même pas cette question-là. Par contre, ce qu'il veut, c'est que du coup, ceux qui sont sur terre soient prévenus, hein, parce que pour eux, c'est pas trop tard. Donc en fait, ça enseigne quand même pas mal de points qui rejoignent la position plutôt traditionnelle, hein, cette parabole.
Et c'est Jésus qui l'a enseigné.
Oui,
c'est Jésus. Alors, ça aussi, on le verra la semaine prochaine. Hein, c'est Jésus qui parle le plus de l'enfer, hein, dans la Bible. C'est très...
La semaine prochaine, tu réponds à cette position que tu nous...
Oui, c'est ça, en fait. Ben, la réponse, c'est les textes bibliques qui parlent de l'enfer et notamment ceux qui contiennent la dimension du caractère éternel des peines. Hein. C'est ça la seule réponse, en fait. Et après, qu'est-ce qu'on construit comme système théologique avec ça? On verra quelques jalons, mais ça reste quand même compliqué.
Il y a aussi un passage qui dit qu'ils sont battus de beaucoup de coups, de moins de coups. C'est aussi un châtiment
proportionné,
adapté.
Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Donc la gravité, si le châtiment est éternel pour tout le monde, peut-être que la punition peut quand même être juste par cette notion de gradation, mais bon, alors voilà, effectivement, oui, tout à fait. Alors, les textes maintenant du Nouveau Testament sur lesquels les universalistes s'appuient, Luc 3, verset 6, par exemple, tout homme verra le salut de Dieu. Alors,
De près ou de loin?
Exact. Mais oui. Mais c'est exactement. Vous voyez qu'on est dans l'interprétation des versets. Ce n'est pas les versets qui nous disent directement la chose. On les interprète. Et on les interprète bon, parce qu'on a tout un système d'interprétation. Effectivement, est-ce que le verbe voir est utilisé au sens fort ou au sens faible, hein. Voir au sens fort, ça voudrait dire participer au salut de Dieu. Je vois le salut de Dieu parce que j'y participe, parce que je suis dedans, parce que Dieu m'a sauvé. Sens fort, sens faible, je vois que Dieu est l'auteur du salut, de ceux qu'il a appelés au salut.
Et puis même le passage avant, là, il est quand même troublant. Toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, les chemins rocailleux seront aplanis et tout homme verra le salut de Dieu.
Oui, c'est ça, on est dans une interprétation et quelle importance on va donner à un verbe ou à un autre, etc. Vous avez 1 Timothée 2, verset 4, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc ça, on l'avait déjà d'ailleurs cité. Vous avez 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et donc, à ces deux versets, qui nous parlent de la volonté de Dieu que les hommes se tournent vers lui et se repentent, ils ajoutent ce qu'on a déjà lu avant, mais que Dieu fait ce qu'il veut, puisque rien ne l'en empêche. Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut, psaume 115, verset 3, et Ésaïe 46, 10, etc. Là, on pourrait citer plein de versets qui disent que rien ne limite Dieu dans sa volonté. Par contre, là, peut-être la discussion, c'est de quelle volonté parle-t-on, hein? Parce que Dieu, par exemple, ne voulait pas que l'homme pêche. Et l'homme a quand même péché. Donc on est quand même un petit peu obligé d'ajouter une petite complexité théologique. 1 Timothée 4, 10. C'est dans cette perspective, en effet, que nous travaillons et que nous nous laissons insulter parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes et en particulier des croyants. Donc Dieu est le sauveur de tous les hommes et en particulier des croyants. Alors là, honnêtement, c'est un passage très difficile parce qu'il est clairement dit que Dieu, le Dieu vivant, est le sauveur de tous les hommes. Alors,
potentiellement.
Alors là tu ouvres encore. Ouais, alors ok. L'offre du salut, effectivement, est celle-ci universelle. Tous les hommes sont appelés à répondre à l'évangile. Tous ne sont pas. Alors Calvin faisait la distinction entre l'appel extérieur et l'appel intérieur. Tout le monde n'est pas appelé à l'intérieur, mais tout le monde est appelé à l'extérieur. Et certains répondent, c'est ceux qui sont appelés aussi à l'intérieur, puis pas les autres. Non, alors là, en fait, ce serait plutôt, en tout cas d'après Henri Blocher, le mot sauveur. J'ai trouvé ça assez curieux, j'avoue, qui serait à prendre au sens faible. Là aussi, sens faible ou sens fort, du mot sauveur. Dieu est le sauveur de tous les hommes. Il est le secours de tous les hommes. Et bien sûr, en particulier des croyants qui, eux, sont sauvés pour le salut éternel, disons. En tout cas, là, on est vraiment confronté, effectivement, à une interprétation, du coup, qui n'est pas forcément facile. Romains 11, verset 32, c'est alors peut-être le verset numéro 1, celui-là, des universalistes. « Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire grâce à tous. » Si tous les hommes qui sont enfermés dans la désobéissance, c'est vraiment dire tous les hommes, dans la deuxième partie du verset, « faire grâce à tous », c'est le même tous, visiblement. Et d'ailleurs, ce verset.
Parce que là, il ne parle pas des Israélites, parce que c'est Romain, c'est ouais. Sur Israël, l'Olivier, tout ça.
Et, alors,
après, je ne connais pas.
Oui. Alors, ça dépend. Ouais, ça dépend si le faire grâce à tous. On peut aussi traduire que Dieu est pitié de tous. Et voilà, c'est-à-dire que Dieu a compassion de tous, mais ça ne veut pas dire qu'il sauve, il sauve tous. Ça dépend aussi comment on va traduire, du coup, à ce moment-là, sens fort, sens faible, ça se rejoint encore une fois. Donc on est dans des questions d'interprétation, de sens fort, sens faible. Alors après, on a des versets, par exemple, 1 Jean 5, 12, qui semblent dire le contraire de ce que dit Romains 11, 32. Je vous le dis juste, celui qui a le Fils, voilà, a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et là, ça semble presque contredire, Romains 11, 32. Alors bien sûr, il faut le lire dans le contexte. Il y a aussi le mot « tous », et ça, on va y venir dessus. Que veut dire « tous les hommes » ? Est-ce que ça veut vraiment dire chaque personne, la somme de toutes les personnes ? Ou est-ce que ça veut dire tous les hommes, dans le sens le salut est ouvert à tous les hommes, pas que les juifs, en fait. Parce que c'était beaucoup ça, le contexte aussi de l'époque, le salut est pour tous les hommes. Paul aurait pu dire ça. Le salut est pour tous. Ben oui, mais oui, oui, et pour tous les hommes, juifs comme non-juifs. Hein. Voilà, il y a cette idée-là.
Mais le verset 13 qu'on vient de lire dit bien, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, donc vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.
Ah oui, oui.
Il l'a offert à tous les hommes, il y a quand même un choix de notre part.
Alors oui, oui, oui. Oui. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est précisé, ok. Ouais, alors bon, ouais. Ouais, tout à fait. Il n'y a plus de condamnation. Alors, je pense qu'ils seraient d'accord. Les universalistes évangéliques seraient d'accord avec ça. Ouais, ceux qui sont en Jésus-Christ ne seront pas condamnés. Les autres le seront, mais justement, ça ne durera pas forcément l'éternité. Alors, Tite 2, verset 11 aussi. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélé. Alors là aussi, on peut répondre que l'offre du salut a été faite à tous les hommes. La source de salut a été révélée à tous les hommes. Cette offre de salut est faite à tous les hommes. 1 Jean 3, 8. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Donc là, c'est un petit peu plus subtil. Hein. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Et les œuvres du diable, c'est justement nous éloigner du salut. Donc Jésus vient détruire ça, quoi. Bon, ça, c'est un peu moins fort. Et 1 Jean 2, 2. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean 2, verset 2, après un passage qu'on lit très souvent, hein, qui parle que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, etc. Parle de Jésus comme victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et là, vous remarquez qu'on a souvent dans ces versets-là la notion, le mot « tous hein, », qui va être interprété, en fait, d'une façon différente. Par exemple, Jean 12, 32, j'attirerai tous les hommes à moi, je crois que c'est ça. Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi, c'est Jésus qui le dit. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de barrière ethnique. Tous les hommes seront attirés, et en plus, attirer ne signifie pas la conversion. Être attiré ne veut pas dire passer par la repentance et la foi. Vous avez Romains 5, 18 aussi. Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Ça rejoint un autre passage qu'on avait déjà lu tout à l'heure. De Romains 11, 32, en fait. Donc, vous voyez, alors nous, qu'est-ce qu'on répond? On va répondre sur la base de l'obéissance à Jésus. Hein, tous les hommes peuvent être sauvés. Hein. Et le tous renvoie probablement aussi, à la somme de toutes les personnes depuis le commencement du monde, mais à la diversité ethnique, plus de barrières entre juifs et non-juifs. C'est un des effets de l'évangile. Jésus-Christ a abattu le mur de séparation. Il y a quelque chose qui séparait le peuple de Dieu et le reste des hommes. Et ça a été abattu par l'évangile. Donc tous sont... tous les hommes sont appelés au salut. Et puis après, on a des passages aussi qui contiennent aussi le mot tous, par exemple dans 1 Corinthiens 15, verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Et 1 Corinthiens 15, 28, hein, lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. C'est par rapport à Jésus-Christ que tout sera décidé, suivant la relation que chacun aura adoptée en face de Jésus, selon la position spirituelle que chacun aura pris face à Jésus, hein, et que Dieu soit tout en tous, ça pourrait aussi nous troubler, cette expression, d'après Calvin, toutes choses se rapporteront à Dieu comme à leur commencement et fin unique. Tout dépendra de Dieu. Dieu sera tout en tous. Voilà. Ça ne veut pas nécessairement dire que tous seront sauvés. C'est l'universel. Et alors les deux passages aussi dans Éphésiens 1:10, Colossiens 1:20, qui sont des passages parallèles. Hein. Donc il nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Et Colossiens 1:20 qui dit à peu près la même chose. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Alors là, comment on interprète, la position traditionnelle interprète ces versets en disant que c'est l'Église de tous les âges, hein, tout est, hein, ce qui est... sur la terre ou dans le ciel, c'est peut-être ceux qui sont déjà décédés. Ou Calvin dit l'ordre spirituel qui sera apporté par Jésus-Christ. Et Philippiens 2, verset 10, alors celui-là aussi, hein, donc, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tout est réuni sous la seigneurie de Jésus-Christ. Mais on peut quand même convenir que, voilà, ces quelques versets, j'en ai peut-être lu là une quinzaine, si on les prend tous ensemble, ils constituent quand même, si on les prend un par un, on peut lisons autrement, interprétons autrement, etc. Et c'est ce qu'on fait, hein, assez naturellement. Par exemple, pour Philippiens 2, verset 10, c'est clair, tout le monde va, disons, on a l'habitude de lire ce passage comme ça en disant, voilà, tout genou pliera devant Jésus, reconnaîtra qu'il est Seigneur, mais certains le feront sans être sauvés, c'est-à-dire qu'ils seront dans le regret, mais ils seront obligés de reconnaître que Jésus est le Seigneur. Certains le feront, entre guillemets, par obligation, et d'autres, par joie. Voilà. Mais le texte ne le dit pas. Le texte dit seulement tout genou pliera devant Dieu et reconnaîtra la seigneurie de Jésus.
En fait, la suite du texte, quand même, ainsi mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, donc les croyants, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. Si on a à mettre notre grand salut, c'est bien. Si on a à mettre notre salut en œuvre, c'est bien que. Enfin, que.
On a
une responsabilité. Oui, merci. Enfin,
ouais.
Ça contredit un petit peu quand même.
Il faut être quelque chose quand
même. Oui, non, mais alors les universalistes ne contestent pas le fait qu'il y en a qui sont sauvés dès aujourd'hui. Hein. C'est juste qu'un jour, si tout le monde plie le genou devant Jésus et reconnaît Jésus comme le Seigneur, alors. Voilà. On pourrait aussi dire ils le reconnaissent comme le Seigneur, mais pas comme le Sauveur, etc. On pourrait dire plein de choses pour interpréter autrement. Mais quand même, on pourrait convenir que si on lit ensemble tous ces versets, et qu'on dit voilà, moi, voilà ma base, mon socle sur lequel je construis tout le reste, eh bien, du coup, les autres versets. Qui vont pas dans ce sens-là, ils vont être interprétés à la lumière de cela, etc. Disons, c'est quand même, voilà, c'est quand même pas rien. Il y a quand même ceux qui sont universalistes et qui respectent la Bible comme parole de Dieu, ils le font honnêtement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et alors pour 1 Jean 2:2 aussi, parce que ça on l'a pas forcément dit, mais je l'avais lu, 1 Jean 2,2, ah ben si, j'avais lu, que Jésus-Christ est la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Là encore, on peut y voir aussi la distinction entre juifs et païens. Par exemple, aussi, ne vaut-il pas mieux, comme Jean dit aussi dans l'Évangile, qu'un homme meure pour tout le peuple, voilà. D'autres vont affirmer aussi que n'importe qui peut dans le monde être sauvé, à condition qu'il accepte le salut. Alors ça, c'est un petit peu ce que tu voulais nous dire, Joël. Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais vraiment nous dire. À un moment donné, tu disais que Jésus est mort pour tous. Alors ça aussi, par exemple, Calvin, ce n'est pas tout à fait ce qu'il dit. Calvin dit Jésus-Christ meurt pour ceux que Dieu a appelés à lui. Jésus, d'ailleurs, demande au Père de ne pas perdre tout ce qu'il lui a donné. Il va mourir pour beaucoup. Donner sa vie en rançon pour beaucoup, ça ne veut pas dire pour tous, etc. Mais cette position existe, à savoir que Jésus meurt pour tous, mais que finalement le salut sera rendu efficace que pour ceux qui ont la foi. Et ça s'appelle l'universalisme hypothétique. Donc hypothétiquement, tout le monde est sauvé, potentiellement tout le monde est sauvé, mais finalement pas. Seuls ceux qui ont la foi, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus, et comme si Jésus payait pour tous, mais que c'est que ceux qui y adhèrent avec la foi, pour qui le sacrifice de Jésus va devenir efficace.
Voilà. Le sacrifice. Être sauvé ne veut pas dire que tout le monde. Il y a la possibilité, tout le monde a la possibilité d'être, et tout le monde ne va pas l'être.
Oui. Ouais. Après, c'est la question, c'est vraiment objectif, c'est-à-dire pour qui Jésus meurt-il, à qui Jésus se substitue-t-il, et c'est là que, ben, voilà, on a trois positions. Calvin, il dit Jésus meurt pour les seuls élus. On a l'universalisme hypothétique d'un certain Moïse Amirault, qui dit Jésus meurt pour tous, mais son sacrifice finalement n'est pas efficace pour tous, que pour ceux qui y adjoignent leur foi. Et Jésus est mort pour tous de façon efficace, l'universalisme. Vous avez un peu ces trois positions. Et l'universalisme hypothétique pose un problème, parce que ça fait de la foi une cause efficace du salut. Alors que pour Calvin, par exemple, la foi ne sauve pas en tant que telle. On est sauvé au moyen de la foi. Ce n'est pas une cause efficace du salut, c'est une cause instrumentale. Par exemple, si j'écris avec un stylo, c'est bien moi qui écris, et pourtant, j'utilise un stylo. Voilà. Le stylo est la cause instrumentale qui écrit, mais c'est bien moi la cause efficace, si je peux dire. Voilà. Eh bien, le sacrifice de Jésus nous sauve, et c'est au moyen de la foi, mais c'est pas la foi qui nous sauve. Disons, la foi qui sauve, c'est des fois un petit raccourci qu'on fait qui n'est pas exactement précis. Et alors voilà, on a. Je vais bientôt finir. Je fais juste cette remarque encore qu'on a un petit peu, par exemple, sur la question de la perte du salut. Je change complètement de sujet, mais on l'avait une fois abordé. Vous voyez, vous avez les textes qui affirment assez clairement on ne peut pas perdre son salut. Puis vous en avez d'autres quand même qui bousculent un petit peu cette affirmation massive et qu'on est obligé du coup de lire d'une certaine façon à la lumière de ces textes qu'on estime clairs. Eh bien, les universalistes évangéliques, ils font la même chose. Ils vont dire, voilà, nous, ce qu'on considère comme le socle clair, c'est ces 20 versets, 30, certains mettent 30, voilà. Ça, on estime que c'est clair, c'est le salut universel. Et donc, tous les autres versets qui vont parler d'autre chose, on va les lire à la lumière de cela. Vous voyez, donc c'est une gymnastique que nous, on fait aussi, avec d'autres questions. Et c'est pour ça que je disais qu'aucun système théologique n'est parfait et ne répond entièrement à toutes les questions qu'on peut se poser en lisant notre Bible. Je ne dis pas ça pour tomber dans un relativisme absolu, hein. Il y a des systèmes théologiques, je pense, qui sont meilleurs. Il y a des réponses qu'on peut apporter qui sont meilleures que d'autres, mais elles ne sont jamais parfaites. Et au fil de la lecture de notre Bible, tiens, on va se poser une question qu'on ne s'était jamais posée et auquel notre propre réflexion ne répond pas pour l'instant. Et puis des fois, il faut beaucoup travailler pour avoir des réponses un peu plus satisfaisantes. Et je dis aussi une remarque sur l'universalisme et la liberté des êtres humains. Il n'y a pas de liberté dans l'universalisme de renoncer vraiment à Dieu, car au bout du compte, tous adoreront Dieu. Et on a cette même idée dans le calvinisme, mais pour l'autre côté, c'est-à-dire il n'y a pas de réelle liberté, il y a de libre arbitre, hein, Luther parlait d'un serf-arbitre, mais pas pour le salut, mais pour la condamnation. Justement, le fait qu'on n'est pas libre parce qu'on est dans le péché, on est aveuglé par le péché, il nous conduit sur la voie de la perdition, et on n'est pas libre de ça, il faut un libérateur, justement. Mais au final, sur la souveraineté de Dieu, contre toute attente, les calvinistes et les universalistes sont d'accord. Dieu est totalement souverain. Et dans le commentaire que je vous ai lu tout à l'heure, elle parlait même de prédestination. Ouais. Donc après avoir un petit peu, quand même, ces dernières semaines, remué mes ménages quand même sur cette question, je vous avoue que j'hésite à qualifier l'universalisme dans sa version évangélique d'hérésie. Je pense qu'il y a, ou alors c'est une hérésie secondaire, si on pouvait faire des niveaux comme ça. Au même titre, par exemple, que ce ne serait pas une hérésie au même titre que ceux qui remettent en question la Trinité, par exemple. Je n'ai pas fini ma réflexion sur ce sujet, même si en français il n'y a pas grand-chose à lire, il faut avouer. Mais je me demande si la position de Augustin, que je vous ai cité dans le parcours historique, finalement n'est pas bonne. Des fois, on pourrait se crisper en tant qu'évangélique baptiste aujourd'hui sur des questions comme ça, mais on s'aperçoit que dans les premiers siècles, Augustin, vous avez entendu ce que j'ai lu de lui, il disait oui, il y en a qui ne croient pas dans la doctrine des peines éternelles, mais parce qu'il y a des textes difficiles à comprendre. Par contre, pour autant, ils sont orthodoxes. Et il respecte pleinement la parole de Dieu. Tout comme l'arminianisme, le calvinisme et d'autres systèmes théologiques. Hein. Alors moi, je reste convaincu que la thèse traditionnelle est plus proche des textes, et c'est ce qu'on va aborder la semaine prochaine.